Le chrétien d'aujourd'hui ne peut pas s'empêcher de voir la différence toujours plus marquée entre la société dans laquelle nous vivons et le monde que nous aspirons à voir se développer, que nous appelons le royaume de Dieu. Le fossé se creuse de plus en plus entre ce dont on entend parler dans la société où nous vivons chaque jour et ce dont nous entendons parler à l'Église. C'est que le monde dans lequel nous sommes se nourrit à une source différente que la nôtre. Notre société aujourd'hui développe des valeurs sur la base d'idées qui sont à la mode, d'idées qui sont reçues par une majorité de gens. Nous développons et nous cherchons à développer nos valeurs à partir de ce que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, lorsque nos contemporains développent leurs valeurs à partir des idées à la mode, ces valeurs peuvent changer parce que les idées changent avec le temps. Certaines idées sont populaires à certaines époques, d'autres le sont à d'autres. Et ainsi, les valeurs changent et fluctuent au fur et à mesure du temps et des modes. C'est la raison pour laquelle nous reconnaissons que le monde d'aujourd'hui développe ses valeurs selon les pensées de son propre cœur, comme dit le prophète. Ces valeurs que nous voyons vécues et dont nous entendons parler chaque jour sont des valeurs bien différentes de celles que nous trouvons dans les Écritures. Elles sont parfois même contraires. Cependant, nous vivons dans cette société et elles ont une certaine influence sur nous. Et permettez ce matin que j'en présente quelques-unes de ces valeurs que notre monde met en évidence, ces valeurs par lesquelles beaucoup de nos contemporains vivent aujourd'hui. L'une de ces valeurs, c'est l'idée selon laquelle le succès est nécessaire. Le succès est nécessaire à nos yeux, il est nécessaire aux yeux de ceux qui nous entourent, et le succès doit se voir, s'exprimer par une certaine aisance matérielle. Autrement dit, si vous êtes un inconnu, si vous n'êtes pas un personnage visible, reconnu, d'une manière ou d'une autre, vous êtes sans intérêt. Restez à la campagne. On n'a pas vraiment besoin de vous. Les gens importants sont les gens à succès, les gens qui réussissent, les gens qui partent de rien et qui se retrouvent, après un certain nombre d'années, à la tête de leur entreprise. Ça, c'est vraiment des gens à succès. On va mettre leur histoire dans le journal. Et puis, le succès, c'est aussi ce que vous avez. On va vous évaluer en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. On va aussi vous évaluer en fonction de ce que vous connaissez du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et je me souviens d'un inspecteur qui venait dans une école et qui, pour mesurer le succès des enfants, leur disait « Mais dites-moi, quel est le titre du film qui vient de sortir et que tout le monde va voir ?» Ça, vous avez besoin de le savoir pour montrer que vous avez une instruction complète. Pourtant, Jésus a dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Jésus disait aussi « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Une autre valeur dont on entend beaucoup parler, c'est le type de relation que les gens établissent les uns avec les autres. Aujourd'hui, par exemple, on considère normal d'avoir plusieurs partenaires. Les relations intimes, c'est une chose normale. Il faut, vous comprenez, disent les gens d'aujourd'hui, éliminer les vieux tabous pour que nos relations entre hommes et femmes soient des relations épanouissantes. Et puis, si je fais une rencontre, entendons-nous aujourd'hui, d'abord, mon corps m'appartient. J'en fais ce que je veux. Ce n'est pas aux autres de me dire ce que je dois en faire. J'ai besoin de m'épanouir dans mes relations avec les autres. Nous sommes des êtres sociaux, après tout. Et pourtant, il est écrit, « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. » Et il est écrit aussi, « Tu ne commettras point d'adultère. » Une autre valeur dont on entend parler souvent, c'est l'impact qu'a sur nous ce que nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous faisons. Le monde d'aujourd'hui considère qu'il n'y a pas de rapport entre ce que l'on regarde, par exemple, à la télévision et l'augmentation croissante de la violence dans le monde. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose, ou même le mal, qu'on va faire le mal. Ce n'est pas parce que je regarde Harry Potter que je vais être envoûté. Ce n'est pas parce que je fais des jeux vidéo que je vais devenir violent. Ce n'est pas parce que je regarde des mauvais films, comme vous dites, que je vais être infidèle. Le monde d'aujourd'hui considère que le divertissement est une chose, et là, tout est permis puisque ce n'est pas la vie réelle. Et d'un autre côté, il y a le monde réel de chaque jour. Ce sont deux mondes différents. Ils n'ont pas de contact l'un avec l'autre. Donc, dans le divertissement, je peux faire tout ce que je veux. Ça n'aura pas d'influence dans ma vie. Et pourtant, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Une autre valeur dont on entend parler aujourd'hui, c'est l'idée de la deuxième chance. Si tu ne réussis pas bien aujourd'hui, si ta vie est manquée, ne t'inquiète pas, tu auras une deuxième chance. D'abord, on n'est plus à l'époque du Dieu de l'Ancien Testament, on est à l'époque du bon Jésus qui aime tout le monde et qui prêche l'amour. Donc si tu te manques une fois, ce n'est pas grave, tu auras une deuxième chance. Après ta mort, tu iras sûrement au paradis et puis ça ira beaucoup mieux. Et si tu ne crois pas à ça, sûrement tu vas te réincarner, tu vas pouvoir réaliser dans la vie suivante ce que tu n'as pas pu faire dans celle-ci. Donc ne t'inquiète pas, tu auras une deuxième chance. Et pourtant, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ou bien dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Une autre idée que l'on entend aujourd'hui, c'est celle-ci. Ce que tu crois, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être sincère. Crois ce que tu veux. De toute façon, il n'y a pas une vérité pour tout le monde. Il n'y a pas une vérité avec un V majuscule. Donc, crois ce que tu veux, c'est égal. Sois juste sincère dans ce que tu fais, ça suffit. En fait, la vérité, c'est toi qui vas la faire en fonction de tes besoins. C'est toi qui vas la choisir, ta vérité. Et par conséquent, personne n'a à te dire ce que tu crois est moins vrai que ce que je crois. Personne ne peut dire « j'ai la vérité et tu es dans l'erreur ». On est tous dans notre vérité à nous, finalement. C'est ainsi que les choses sont présentées aujourd'hui. Et pourtant, il est écrit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et Jésus disait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus ne sous-entendait pas qu'il y avait autant de vérité que d'individus. Une autre idée que l'on entend aujourd'hui, c'est la nécessité d'un épanouissement personnel. Vous trouvez de nombreux instituts qui vous aident dans votre épanouissement personnel. C'est très important, entend-on aujourd'hui, il faut s'épanouir, il faut être bien dans sa peau. Il faut développer notre potentiel personnel. Et ne laissez surtout pas les autres vous empêcher de le faire. Que rien de ce que les autres ne fassent ne vous empêche, vous, de développer votre potentiel pour vous-même, en vue du succès, justement, personnel dont vous avez besoin. Il faut développer son potentiel. Il faut veiller sur soi-même, prendre soin de soi-même, être bon envers soi-même, faire grandir le bon qu'il y a en nous et lui donner de plus en plus de place pour être épanoui personnellement. Être au plein contrôle de nos capacités, de nos moyens, de ce que nous sommes. S'occuper de soi, finalement, d'abord. Et pourtant, il est écrit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même, en troisième lieu. » Il est dit aussi, « Quiconque sera humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Ce sont là quelques-unes des idées qui circulent dans notre temps et qui sont la source à laquelle notre société s'abreuve. C'est là que le monde se nourrit, c'est là qu'il construit ses valeurs, c'est là-dessus qu'il vit. Et pourtant, on se rend compte que dans ces idées, dans ces notions, il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien qui corresponde au message de la parole de Dieu. Alors, où devons-nous donc nous nourrir? Quelle est la nourriture qu'en tant que chrétiens nous devons prendre pour construire les valeurs que Dieu voudrait voir se développer dans nos vies? Dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, je trouve un passage intéressant. Dieu s'adresse à son peuple au moment où il va rentrer dans la terre promise et il annonce à son peuple quelle va être la nourriture de base qu'il va avoir lorsqu'il sera dans la terre promise. Curieusement, Dieu va citer 7 aliments alors que son peuple va rentrer dans la Canaan terrestre. Nous pouvons lire, si vous le voulez bien, dans Deutéronome chapitre 8, ce qu'il est écrit à partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Curieusement, alors que le peuple rentre dans ce pays, Dieu va souligner 7 aliments. Et bien entendu, lorsqu'on pense à cette grappe de raisin que Josué et Caleb ont ramenée de ce pays, il fallait qu'il soit 2 pour la porter. Si tous les autres fruits qui sont mentionnés ici sont dans la même proportion, je crois que nous n'avons pas assez d'imagination pour savoir comment ces fruits étaient gros et comment ils pouvaient être bons. Cependant, mis à part le goût extraordinaire que ces fruits devaient avoir, j'aimerais, si vous le permettez, les prendre ce matin sous un angle spirituel. Ils sont associés dans la Bible à certaines notions. C'est là notre nourriture. J'aimerais commencer avec l'orge, parce que l'orge est récoltée en premier à la fête des prémices dans le programme des fêtes juives. C'est le fruit de cette pluie de l'automne. Et il est associé dans la parole de Dieu avec le peuple d'Israël. Regardez dans le livre des Juges au chapitre 7. Dans le livre des Juges au chapitre 7 se trouve rapportée l'histoire de Gédéon. Et vous vous souvenez comment Gédéon a été appelé par Dieu à lutter contre les Madianites. Dieu va l'appeler vaillant héros, sans que lui-même se sente ni vaillant ni héros. C'est un homme qui craint, qui se cache. Et pour l'encourager, Dieu va l'envoyer écouter ce qui se passe dans le camp des ennemis, lui et son serviteur. Dans le livre des Juges, au chapitre 7, au verset 13, il est dit ceci. Gédéon arriva, sous-entendu dans le camp des ennemis, et voici, un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Pour faire comprendre à ces Madianites que le peuple de Dieu va venir l'écraser, c'est un gâteau de pain d'orge qu'il va voir en vision et qui représente, comme ils le comprennent très bien, un homme d'Israël. L'orge qui était récoltée à ce moment des premières prémices est associée avec le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est dans ce peuple que Dieu voulait placer tous ceux qui voulaient faire alliance avec lui. Cette communauté de foi, mais aussi un peuple où était associée la force, les capacités de tous ceux qui voulaient marcher avec Dieu à cette époque-là et vivre ses commandements. L'orge est associée au peuple de Dieu de l'Ancien Testament. Maintenant, dans le Deutéronome, l'autre aliment qui est présenté, c'est le blé, le froment. Il était récolté, par contre, plus d'un mois plus tard, à l'époque de la fête des semaines, ou la fête de la Pentecôte. C'était le fruit de cette pluie du printemps, la dernière, cette pluie qui l'amenait à maturité avant qu'il soit récolté. C'était associé avec la fête de la Pentecôte. Une image, cette fois-ci, du peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez qu'à la fête de la Pentecôte, 2 pains étaient présentés et ces deux pains contenaient du levain. Ils représentaient donc des êtres humains. Et lorsque nous lisons ce qui se passe à la Pentecôte, nous comprenons qu'il y a là la première moisson qui va constituer les bases de l'Église. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, au verset 11, il est dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Ils viendront de partout. L'Évangile prêché partout portera des fruits partout. C'est l'Église du Nouveau Testament. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 41, nous lisons ceci. Acte 2, verset 41. Suite à la prédication de Pierre, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. » Voilà la première moisson, la moisson du froment. Ce blé qui représente le peuple de Dieu, mais dans le Nouveau Testament cette fois. Autrement dit, l'Église, cette communauté de foi qui fait le tour du monde et dans laquelle Dieu veut rassembler toutes ses forces, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Dieu n'envoie pas ses enfants tout seuls dans le monde, il les rassemble en famille pour unir leurs forces, leurs moyens et la puissance de leur témoignage. Cet autre fruit dont il est parlé dans le Deutéronome, c'est la vigne. Nous retrouvons ce symbole à bien des reprises dans la parole de Dieu. Et il est facile à trouver parce que le jus de la vigne nous rappelle effectivement le sang. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, Jésus reprend cette image. Au moment de la Sainte Cène, la première qu'il vit avec ses disciples, en commémorant la Pâque, Jésus dit ceci. Matthieu, chapitre 26, versets 27 et 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Cette vigne représente ce sacrifice que Jésus fait, ce sang versé à notre place, pour que, par le sacrifice de Jésus, nous ayons le pardon de nos péchés. La vigne est associée à maintes reprises avec ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous, en notre faveur. Et le jus de raisin, c'est une boisson extrêmement riche, d'une grande richesse nutritive. Vous ne pouvez pas boire autant de jus de raisin que vous ne buvez d'eau. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul parle dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, où il dit « En lui, en parlant de Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Il nous est difficile d'imaginer tout l'amour qui est exprimé par ce sacrifice de Jésus, parce que c'est un amour divin qui nous dépasse. Ce sacrifice est d'une richesse extraordinaire parce que de la mort, nous pouvons avoir la vie. La vigne était l'un de ces fruits essentiels dont le peuple allait se nourrir. Le fruit suivant, c'est le figuier. Et le figuier produit des figues extrêmement douces. Et la figue est associée dans la parole de Dieu avec la guérison. Et je le comprends parce que lorsque la guérison vient après la souffrance, c'est véritablement un fruit d'une grande douceur que l'on savoure. Regardez par exemple dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 20. Le prophète Ésaïe a annoncé à Ézéchias sa mort prochaine. Finalement envoyé de nouveau par Dieu pour parler à Ézéchias en réponse à sa prière, Ésaïe apporte un remède à son mal. Et il est dit au verset 7, deuxième livre de Rois, chapitre 20, verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues, et on la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Les figues sont associées à la guérison. Et c'est effectivement cette guérison que le Seigneur veut nous donner. Il veut non seulement nous accorder le pardon, c'est ce que nous voyons dans le sens de la vigne, du sacrifice dont nous profitons, ou si vous voulez employer un autre mot, la justification. Mais le figuier et son fruit représentent cette guérison du péché, non seulement pardonné, mais guéri aussi du péché. Et c'est le mot sanctification que l'on retrouve dans les Écritures. Dès le départ, Adam et Ève avaient voulu résoudre leurs problèmes en utilisant les feuilles du figuier. Vous vous souvenez, il est dit dans Genèse, « Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. » Ce n'est pas par leurs propres moyens que le problème va être résolu, c'est par les moyens de Dieu. Et c'est par sa puissance que le Seigneur veut nous guérir du péché, nous transformer, nous sanctifier. Ainsi, la nourriture du peuple de Dieu ne sera pas seulement le raisin par lequel nous voyons l'image de ce pardon accordé grâce au sacrifice de Jésus, mais aussi de la guérison, le figuier qui veut apporter la guérison totale à notre péché. Le cinquième fruit dont Dieu parle, c'est la grenade. Ce sera, dit-il, un pays de grenadiers. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 28, il nous est parlé de la grenade. Elle se trouve associée essentiellement au temple. On la trouvait reproduite sur les colonnes qui ornaient l'entrée du temple. On la retrouvait aussi sur le vêtement du souverain sacrificateur. Exode, chapitre 28, verset 33. Tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade, sur tout le tour de la bordure de la robe. Le vêtement entier du souverain sacrificateur exprimait les différentes qualités de la pureté de notre Sauveur Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous fait comprendre que le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus lui-même. Et les vêtements que portait le souverain sacrificateur expriment cette pureté de Jésus. Les grenades font partie de ce vêtement du souverain sacrificateur et qui exprime cette pureté. Cette pureté qui est notre héritage, l'héritage que nous donne le Seigneur lorsque il nous propose de partager sa gloire à son retour. Le Seigneur ne veut pas simplement nous pardonner, il veut aussi nous guérir, il veut aussi nous faire partager cette pureté, cette gloire qui est la sienne pendant la vie éternelle. Le sixième fruit que le Seigneur promet à son peuple, c'est l'olive. L'olivier que l'on retrouve partout en Canaan et qui donne cette olive riche d'huile qui était utilisée pour beaucoup de choses. Le prophète Zacharie, dans le rapport de la vision qu'il a de la part de Dieu, nous aide à comprendre, dans le chapitre 4 de son livre, ce que signifie l'olive et son huile. Zacharie, chapitre 4, dès le verset 3. Dans cette vision, Zacharie voit un chandelier. Il est dit au verset 3, « Il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » L'huile est une image de cette action du Saint-Esprit en nous. Elle nous rappelle ce que disait Jésus par rapport au Saint-Esprit lorsqu'il parlait à Nicodème. Il disait, le Saint-Esprit, on ne le voit pas, on en voit seulement les effets. Et c'est ainsi, lorsqu'on met l'huile dans la lampe, on ne voit pas l'huile, on voit simplement la flamme qu'elle produit. Cette huile, image du Saint-Esprit que l'on utilise aussi dans le Nouveau Testament, selon les instructions de Jacques, pour l'onction d'huile, pour les malades. L'huile, action du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans le livre des Actes, au chapitre 1er et au verset 8, Jésus en parle. Jésus dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette promesse que Jésus fait à ses disciples, la promesse de recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour que eux-mêmes puissent transmettre cette bénédiction autour d'eux. Ainsi, l'olivier, l'olive et son huile représentent l'action du Saint-Esprit en nous et par nous. Le dernier aliment qui est mentionné dans cette liste de sept dans le livre du Deutéronome, comme les aliments dont le peuple va pouvoir jouir, c'est le miel. Et le miel est associé aussi avec un élément extrêmement important dans les Écritures. Regardez avec moi ce qu'il est écrit dans le psaume 119. Psaume 119, verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Vous reconnaissez dans ce psaume 119 ce long psaume qui est entièrement consacré à la parole de Dieu, à sa puissance. Le psalmiste ici compare cette parole de Dieu avec le miel, cette grande douceur à sa bouche. On le retrouve aussi dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10. Apocalypse, chapitre 10. Dans ce chapitre, l'apôtre Jean est en vision et on lui présente un petit livre et on l'invite à le manger. Dans l'Apocalypse, au chapitre 10, au verset 9, il est écrit ceci. « Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Et nous reconnaissons dans l'étude de ce chapitre que ce petit livre qui est donné à Jean pour qu'il le mange représente cette prophétie qui a été donnée au prophète Daniel et qui, à la fin des temps, est répandue à nouveau dans le monde entier comme témoignage du proche retour de Jésus. Jean devait manger cette portion de l'Écriture et cet Apocalypse qu'il reçoit ici en vision fait aussi partie de cette parole prophétique nécessaire à la fin des temps. Ainsi, le miel est associé à la parole de Dieu. Et c'est vrai que celui qui plonge ses regards reçoit cette parole comme quelque chose d'extrêmement doux parce qu'il y découvre les promesses de Dieu, il y découvre l'amour de Dieu, il y découvre la délivrance du mal et du péché. Alors la question se pose, où donc allons-nous nous nourrir? Nous qui attendons le retour de Jésus. La société dans laquelle nous vivons va se nourrir de toutes sortes d'idées selon son propre cœur, sur lesquelles elle base ses valeurs. Et c'est ainsi que vivent nos contemporains, selon quelques-unes des idées que nous avons évoquées en commençant. Mais ceux qui attendent le retour de Jésus, ceux qui veulent se préparer à la Canaan céleste, où se nourrissent-ils? Quelle nourriture prennent-ils pour se fortifier? J'aimerais vous suggérer que ces aliments dont parlait Dieu à son peuple d'Israël doivent aussi être notre nourriture aujourd'hui. Et je ne parle pas, vous m'entendez bien, de ces fruits dans leur sens naturel, j'en parle dans le sens spirituel, parce qu'ils constituent finalement, véritablement, le menu idéal du disciple de Jésus qui se prépare au retour de son maître. Dans l'Ancien Testament, Dieu invitait déjà son peuple à ce régime alimentaire spirituel. Et je crois que l'invitation que le Seigneur adressait à son peuple autrefois est une invitation qui aujourd'hui encore est d'une grande valeur pour son peuple d'aujourd'hui qui se prépare à son retour. J'aimerais en terminant vous laisser cette invitation à reconsidérer votre régime alimentaire spirituel et à avoir le régime approprié pour ceux qui attendent son retour. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, au verset 2, il est écrit ceci. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Amen.